Bonjour à tous. Je remercie également l'équipe de l'IPSEM de m'avoir permis de présenter le travail de quelques années dans le cadre de la réhabilitation respiratoire des patients BPCO, donc qui présentent une bronchopneumopathie chronique obstructive, dans le cadre un peu plus particulier ici des insuffisants respiratoires chroniques. Je voudrais d'abord déjà remercier toute l'équipe qui a permis de travailler sur ce projet et tous ceux que je n'ai pas cités et qui sont nombreux, infirmières, kinés, membres de l'IPSEM, qui nous ont aidés à évoluer dans notre démarche au fil des années. Je voudrais juste rappeler en une phrase ce que c'est que l'insuffisance respiratoire, qu'est-ce que c'est que la réhabilitation respiratoire pour éventuellement ceux qui ne seraient pas trop au courant, puisque je suis le pneumologue de service de la journée apparemment. De rappeler un peu les pratiques d'éducation thérapeutique en activité libérale, donc rapidement le parcours qu'on a pu avoir, et donc la dernière question qui était posée, les supports d'éducation, tout ça en moins de 15 minutes de chrono. Donc on est parti. Les insuffisants respiratoires chroniques, donc c'est une évolution éventuelle d'une maladie respiratoire chronique, quelle qu'elle soit, et qui peut être la BPCO, qui se traduit sur le plan biomédical par une hypoxémie et ou une hypercapnie, et qui sur le plan thérapeutique se traduit par une prise en charge instrumentale, comme on pourrait dire, à type d'oxygénothérapie ou de ventilation, surtout ventilation nasale, éventuellement trachéotomie dans l'étape évolutive ultime. Voilà les insuffisants respiratoires chroniques. La réhabilitation respiratoire, vous savez sans doute que la SPLF a fait une conférence de consensus en 2005 permettant de mettre en avant ce type de prise en charge chez les patients souffrant d'une BPCO ou d'une IRC. Vous voyez ici la définition qui a été retenue de la réhabilitation respiratoire, un ensemble de soins personnalisés dispensés aux patients atteints d'une maladie respiratoire chronique, même si c'est le BPCO qui est le plus souvent pris en charge dans notre activité, par une équipe transdisciplinaire. Elle a pour objectif de réduire les symptômes, d'optimiser les conditions physiques et psychosociales, et de diminuer les coûts de la santé. La réhabilitation respiratoire, c'est donc une prise en charge globale qui associe certes le réentraînement à l'effort et la reprise d'activité physique, qui est un des piliers de la réhabilitation, mais aussi, bien entendu, l'éducation thérapeutique, la prise en charge kinésithérapique, kinésithérapie respiratoire, l'accompagnement psychosocial et l'accompagnement diététique. Alors d'emblée, je peux vous dire que sur le plan diététique, je suis mauvais, on est mauvais pour l'instant, j'espère que d'autres pourront nous aider. Donc on parlera essentiellement de ces quatre autres types de prise en charge, en insistant bien sûr sur l'éducation thérapeutique, qui est le thème de notre journée. Sur le plan personnel, avec les membres des équipes dont je vais parler tout à l'heure, j'ai développé au début, en 1990, le premier stage de réhabilitation respiratoire en centre libéral. Ça doit être pour ça que je suis ici. Donc, dans une structure hospitalière clinique privée, et comme le rappelait cette phrase dans la présentation de la journée de l'IPSEM d'aujourd'hui, l'éducation thérapeutique renvoie dans ce domaine-là, davantage à des pratiques d'équipe soignante dans des structures de soins. Et comme je pense que la prise en charge ne peut se faire que par des équipes soignantes, dans le long terme, on a essayé aussi de créer quelque chose pour pérenniser justement les acquis de façon durable pour que les patients aient des changements de comportement en termes d'activité physique et d'observance au traitement de façon durable, qu'ils deviennent autonomes, acteurs de la santé, de leur santé. Et tout ça nécessite une complémentarité, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, des différents intervenants et des différentes structures, qu'elles soient publiques, privées, libérales, sécurité sociale ou mutuelle. Je pense que tout le monde, il y a du travail pour vraiment tout le monde. Donc, dans cette prise en charge à long terme au domicile, le libéral peut de fait avoir un impact un peu plus important. Et comme c'est rappelé dans la lettre introductive ici de cette journée, c'est une mise en œuvre d'une éducation principalement individuelle, de proximité et en prise directe avec les problèmes quotidiens des patients. C'est ce qu'on a essayé également de mettre en place depuis quelques années dans le cadre des insuffisants respiratoires chroniques. Pour ça, nous avons créé une société qui s'appelle Eolien, qui permet de mettre au domicile des patients de l'oxygène et de la ventilation, si je simplifie. Et dans cette équipe, dès le début, nous avons intégré au fil du temps deux infirmières, un prof d'éducation physique, APA, un demi, équivalent temps plein de kinésithérapeute, un pneumologue que je n'ai pas eu trop de mal à trouver. L'ensemble de l'équipe SOFA a été formée à l'IPSEM pour avoir l'ensemble des compétences que l'on peut avoir. La prise en charge se fait à domicile, chez donc des patients insuffisants respiratoires chroniques sous oxygène et ou ventilation, adressés par leur pneumologue, avec des séances individuelles d'une heure à 1h30, où, en plus de l'éducation thérapeutique, est proposée une reprise à l'activité physique adaptée, un accompagnement psychosocial. Le côté kinésithérapie respiratoire est renvoyé sur son kinésithérapeute libéral de proximité, et le côté diététique, comme je vous l'ai dit, on n'est pas très performant, donc je ne voudrais pas vous faire croire que l'on prend ce type de prise en charge. Donc en pratique, ça, les supports d'éducation, pour répondre à la question, nous avons mis au point donc un support d'éducation avec deux types de classeurs, un classeur imagié qui permet d'avoir une structure de base pour l'équipe soignante, et puis des fiches patients que l'on remet aux patients à chaque séance d'éducation thérapeutique, la fiche correspondant à une fiche du classeur imagié. Il n'y a évidemment pas du tout de chronologie obligatoire dans l'utilisation de ces fiches, et tout n'est pas obligatoirement pris en charge. Donc ce type de fiche, par exemple, ici, donc UCI comme classeur imagié, où ce sont des dessins qui sont de façon assez simple, facile à comprendre, ou sans trop de texte, comme tout classeur imagié qui doit se respecter, et dans lequel on peut écrire dessus, puisque ces fiches-là de classeur imagié sont plastifiées et permettent d'écrire et d'effacer. Et de façon concomitante à cette fiche de classeur imagié, on peut remettre une fiche au patient à l'issue de cette séance d'éducation, où le côté, dans ce cas-là, comprendre et expliquer, par exemple, l'appareil respiratoire, peut être retrouvé dans les compétences pédagogiques de l'ensemble des patients. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement. Là, c'est dans le cadre repérer, analyser, réagir. Comment peut-on faire prendre conscience au patient des signes avant-coureurs d'une décompensation, en le faisant parler, bien entendu, sur ses signes à lui de rhume, de pharyngite, de bronchite ou autre, et de lui remettre au décours de sa séance une fiche d'éducation recto-verso, dans le cas présent, là-dessus, que l'on peut regarder ensemble plus avant, en faisant des zooms sur cette partie où on essaye de coter par une échelle visuelle analogique, comme on le met dans la douleur ou dans la dyspnée, l'importance de la dyspnée du patient, de sa toux, de son expectoration et de sa fatigue générale, et de lui faire prendre conscience qu'en cas d'aggravation des signes cliniques, par une aggravation de 2 points par exemple, il doit pouvoir agir et réagir à cette symptomatologie par un acte adapté. Donc, si on fait un zoom sur cette partie-là, on a listé en quelque sorte les signes cliniques que le patient nous donne de façon régulière, avec des petits carrés pour qu'il puisse cocher, s'approprier ces signes cliniques à lui, et puis en rajouter si c'est nécessaire, avec en face un plan d'action. Il doit prendre son traitement de crise, augmenter son traitement de fond, prendre du paracétamol ou un anti-inflammatoire quelconque, puis des choses qui peuvent être localement utiles pour lui. Donc ce type de fiche permet l'appropriation du patient. La même chose, par exemple, pour ce qui concerne la bronchite chronique. Donc cette fiche-là permet à la fois de voir quels sont les signes du patient qui s'approprient, aussi une évaluation à long terme éventuellement. Et puis pour le plan d'action, on a une autre fiche qui peut être une suite de celle-là, de cette prise en charge, qui est cette fiche-là. Si on la zoome, on reprend ce que l'on a vu. Quel est le traitement du patient, son traitement de crise? Quel est son traitement de fond inhalé? Quel est le type de produit qu'il va prendre? Et donc, en cas de différentes pathologies, qu'est-ce qu'il doit faire? Et aussi, est-ce qu'il doit ou pas appeler son médecin traitant ou son remplaçant? Parce qu'on a vu que souvent, les gens hésitaient à appeler le remplaçant du médecin traitant. Et à quelle vitesse, en quelque sorte, dans quel degré d'urgence? Donc, ce plan d'action permet aux patients de réagir plus rapidement, nous l'espérons, à sa prise en charge. Là, ça correspond plus à un atelier plutôt qu'à une éducation dans le cadre du réentraînement à l'effort, où on peut proposer à la suite d'un atelier, dans le cas présent du réentraînement, du renforcement musculaire, par exemple, des membres supérieurs, de quelle façon ça peut se produire, avec quel type d'exercices qui peuvent avoir lieu. Et là aussi, le patient, on peut faire une sorte de prescription en passant, lui demandant d'effectuer cet exercice-là, puis cet exercice-là, dans les conditions qui lui sont proposées. Et à chaque fois, en essayant d'aller du concret vers l'abstrait, et pourquoi il est intéressant pour lui de faire un réentraînement musculaire, par exemple, des membres supérieurs dans le cas présent, parce que dans sa vie de tous les jours, ça peut lui servir à faire de façon plus facile les activités de la vie quotidienne. Autre élément de type de fiche d'accompagnement psychosocial qui peut être un élément important, c'est la difficulté qu'ont les patients qui sont sous oxygène à sortir avec leur portable d'oxygène à cause du regard des autres. Donc c'est un peu le genre, comme on dit nous dans le Nord, j'aimerais bien mais je peux point. Je peux point, pourquoi? Donc essayer de voir avec eux les avantages et les inconvénients qu'ils ont à sortir avec l'oxygène dans ce cas présent. Et là aussi, par rapport à cette fiche de classeur imagier, on a une fiche patient dans laquelle sont listés quelques éléments qui leur permettent éventuellement de prendre conscience pourquoi ils n'arrivent pas à sortir avec leur oxygène, de les aider à envisager de sortir avec l'oxygène, de les aider à se décider, de les aider à essayer et enfin de les aider à sortir de façon régulière, donc une sorte de cercle vertueux en quelque sorte, pour les aider à sortir avec leur traitement. On peut faire un zoom sur cette-là, où ce sont le listing des principales phrases que les gens peuvent nous dire qui les bloquent dans la sortie des autres, avec notamment essentiellement la notion du regard des autres, de la peur d'être pris un peu pour des bêtes curieuses. Donc d'être avec eux et qu'ils se retrouvent dans ces sujets et qu'ils se retrouvent pas seuls et se disent que d'autres ont les mêmes problèmes et qu'on peut les aider à surpasser ces problèmes. Si on fait un zoom sur la partie inférieure de cette fiche d'accompagnement, c'est je décide de sortir, avec qui éventuellement et dans quelles circonstances éventuellement. Là aussi, il y a évidemment possibilité pour le patient de faire des annotations personnelles pour s'approprier cette prise en charge et cette évolution.
Jean-Marie, il reste 3 minutes.
Eh bien, ça tombe bien puisque j'ai plus que 30 secondes. Donc, d'accord, on va gagner 2 minutes 30 pour aller boire peut-être un café tout à l'heure. En conclusion, je voulais dire que la prise en charge à long terme, à domicile ou dans le cadre libéral, permet d'être une mise en œuvre d'une éducation thérapeutique individuelle de proximité et en prise directe avec les problèmes quotidiens des patients. Que cette prise en charge, comme dirait l'autre, elle est continue, évolutive, jamais définitive, comme ça peut être le cas dans beaucoup d'autres domaines, qu'il faut qu'il y ait une complémentarité de structures, parce que je pense qu'il y a du boulot vraiment pour tout le monde, que ce soit le public, le privé, le libéral, le domicile, le groupe, l'individuel ou autre, tout le monde peut travailler, il y a vraiment du boulot pour tout le monde, et qu'il faut une complémentarité des intervenants, intervenants formés, bien sûr, à l'éducation thérapeutique, et puis, si vous ne connaissez pas une adresse pour former vos collaborateurs à l'éducation thérapeutique, il faudrait peut-être penser à l'ITSEM, par exemple. Je vous remercie.